Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mardi 25 janvier et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levés du bon pied ce matin, j'espère que ça va dans la chatroom, salut Spégadron, salut Dwayne, salut Lord Gibus, salut Polaire, salut Grolb, salut Samuel, salut Fabrice, je vois qu'il y a déjà du monde, salut Gravis, salut Andy from Normandie, salut MacPaddy, salut Soen, salut Cyril, salut Biro, salut Ziboun, salut Neno, Neo Neptuna. Joli, joli, joli. Le sujet m'intéresse énormément. Je me demande de quel sujet tu parles, si tu peux préciser, ça m'intéresse de voir quel sujet te plaît ce matin potentiellement. Bonjour, pour une fois que je suis là le mardi, bah écoute, j'y vais au kilomètre. Bienvenue, bienvenue à toi. Salut Télévore, salut Swan. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver en ce mardi, petit début de semaine, tranquillou. On a plein de petites actualités sympas ce matin. On va passer pas mal de temps notamment à parler de streaming ce matin. J'avais plein de petites news, des choses sérieuses, des choses rigolotes. Et à un moment donné, j'ai envie de vous poser, vous demander votre avis, vous poser une question, vous demander votre avis. Donc on pourra en échanger pas mal sur le sujet. Mais de quoi va-t-on parler concrètement ce matin ? Alors, on va commencer par une petite news française ou allemande, ou française ou allemande, ou les deux. Tout simplement, c'est Frichti qui serait en négociation exclusive de fusion slash rachat par Gorilla, la société allemande. Voilà, donc là, c'est on est vraiment dans le secteur de la livraison rapide, de l'e-commerce rapide, puisque Frichti va pouvoir livrer... Alors, ils avaient déjà originellement commencé par de la livraison de repas cuisiné par leur cuisine, et ensuite maintenant ils livrent carrément des courses de manière rapide, généralement dans la même journée, etc. Et donc a priori ils seraient en négociation pour un rachat ou une fusion avec la société Gorilla. Donc ça serait intéressant qu'on en parle ensemble. Vous pourrez me dire dans la chatroom si vous êtes fâché finalement qu'une start-up française passe chez les Allemands, ou tout simplement content peut-être que ça puisse ouvrir des nouvelles portes d'expansion pour Frichti. Bah, vous me le direz tout à l'heure. On continuera avec un petit bug. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est un bug ou une utilisation qui a créé une faille maintenant pour certains petits hackers, pas forcément des hackers, mais des malins. C'est sur la plateforme d'achat de NFT OpenSea que ça se passe, ce qui fait pas forcément leur affaire, puisqu'ils ont quand même fait une levée de fonds assez récente, donc ils étaient assez, voilà, sous le feu des projecteurs. Et là, finalement, ils atterrissent encore une fois sous le feu des projecteurs, mais pas forcément pour quelque chose qui favoriserait leur business. Et donc, ça sera intéressant de voir de quoi il s'agit et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour vous la faire courte, tout simplement, il y a certaines personnes qui ont réussi à acheter des NFT à un prix largement inférieur à leur prix minimum de vente, ce qui, évidemment, leur a permis de les revendre très cher et de faire une belle marge dessus. Ce qui n'a pas plu aux créateurs qui avaient mis à l'origine ces NFT en vente, évidemment. Donc on verra comment ça a été possible et quelle a été la réaction jusqu'ici d'OpenSea. Voilà, donc si vous vous demandez si vous achèteriez pas des NFT par hasard, il y a quelques précautions à prendre par rapport à ça, et on va flirter avec évidemment le domaine de la blockchain, puisque c'est évidemment très très lié. Et puis on continuera avec la France encore cette fois-ci, et ça sera le Parlement européen, et on parlera du Digital Service Act, la grande loi qui tend à réguler les plateformes du numérique et qui pourraient entrer en vigueur courant 2023. Alors, son petit nom français, c'est la législation sur les services numériques, et on verra qu'est-ce qu'elle englobe tout simplement, quels sont les points qui pourraient nous intéresser et qui pourraient accroître un petit peu la sécurité et la réglementation sur les usages des services numériques. Voilà, on sent que la Commission européenne, en tout cas, essaye de serrer la vis ici. Et puis on continuera avec la petite saga que je trouve assez passionnante, c'est encore Peloton. Alors excusez-moi, j'ai un chat qui veut saboter l'émission, je suis obligée de m'interrompre 3 secondes. En espérant qu'il aura compris la leçon, mais c'est pas dit. Il s'amuse à faire des acrobaties sur l'étendoir. Hein. C'est pas cool pour les vêtements. Bref, voilà, petite plongée dans le monde très très personnel ici. On revient sur la saga Peloton. Peloton qui avait explosé durant. Enfin, explosé, ouais, on va faire attention aux mots utilisés, mais qui avait vraiment cartonné lors de la crise du coronavirus avec tout ce qui était confinement, etc. et qui permettait aux gens de pratiquer une activité sportive depuis le confort de leur logement grâce à des cours et des équipements, notamment des vélos électriques, des tapis. De course, etc. C'est du chabotage, exactement. Et ben voilà, ça continue de pas aller super bien pour eux. On verra qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux plus précisément. Et puis, pour la petite anecdote, je vous avais parlé justement que Sex and the City n'avait pas forcément arrangé la chose avec notamment un personnage phare de la série qui a une crise cardiaque en utilisant son peloton, ce qui est quand même assez cocasse, moi je trouve. Mais c'est pas fini parce que c'est pas le seul personnage de série. Je vous jure, on dirait un gag, vraiment, on dirait un gag où tout le monde s'acharne sur cette pauvre boîte. Et c'est pas le seul personnage de série qui a des problèmes de santé en utilisant peloton. Alors évidemment, ça fait pas les affaires de la boîte. Vous pouvez commencer à faire des paris dans la chatroom sur quelle série a décidé de continuer à taper sur la société Peloton en faisant mourir ou avoir un problème cardiaque à un de ses personnages en utilisant le fameux vélo. Voilà. Et puis après, on continuera avec plus précisément du streaming. Cette fois-ci, ce sera un petit tour du côté de la chronologie des médias qui va avoir une petite mise à jour. Et oui. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour nous, consommateurs? Bah voilà, moi ça m'intéresse. Donc, j'espère que ça vous intéresse dans la chatroom. On verra un petit peu les changements de fenêtres de diffusion pour les programmes. On n'aura peut-être pas à attendre aussi longtemps pour entre un film qui sort en salle et un film qui sera disponible sur les plateformes de vidéos à la demande. On croise les doigts. Donc, on vous le saurez tout à l'heure. Petit teasing. Voilà. Et on continuera cette fois-ci en prenant des nouvelles sur les parts de marché des différents services de streaming aux États-Unis. Donc là, c'est un article et une analyse qui s'intéresse uniquement aux services, au marché américain. Mais déjà, ça donne un petit peu certaines tendances. Donc, ça sera quand même intéressant d'en parler ensemble. Donc, de qui de Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Disney, HBO Max, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a quand même HBO Max, ce genre de choses, a le plus de parts de marché. Vous pouvez faire vos pronostics dans la chatroom. Et puis après, on parlera encore une fois de streaming, cette fois-ci, petite stratégie des plateformes de streaming, notamment Amazon Prime Video et Netflix, qui sont vraiment dans une course de vitesse ici pour conquérir le marché indien, qui représente quand même énormément, énormément de personnes, donc vraiment un bel Eldorado en termes de croissance d'utilisateurs. Et donc on sent là qu'ils essayent d'accélérer. On verra ça rapidement ensemble. Et puis, petite cerise sur le croissant pour terminer l'émission, eh ben, on parlera un petit peu de la nouvelle tendance visuelle, alors nouvelle, pas si nouvelle que ça, mais qu'on voit depuis peut-être une quinzaine d'années, à la désaturation des images, un aspect un peu fade, un peu désaturé et très sombre, qui a un peu propagé, s'est un peu propagé parmi les séries et les films qui sont sortis dernièrement. Voilà, donc vous l'avez peut-être remarqué. Ou pas, on en parlera ensemble pour avoir justement votre ressenti. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous trouvez que c'est devenu trop monotone, est-ce que vous n'arrivez pas à voir l'action depuis votre salon quand il y a un rayon de soleil qui tape sur la télé? C'est très spécifique, mais je me sens très très concernée là. Donc voilà, on pourra se plaindre ensemble en fin d'émission. Et ça, si c'est pas une bonne manière de commencer la journée ensemble, je ne sais pas ce que c'est de bien commencer la journée. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite avec le Kawa. Hello, hello, encore à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Bientôt la désaturation partielle. Bref, donc je vous propose de commencer avec le premier article ce matin qui concerne une société française, puisqu'on va parler de Frishti, comme je vous le disais lors du sommaire. Et voilà, Frishti a annoncé entrer en négociation exclusive avec la société Gorilla en vue d'un rachat. Les deux marques feront ainsi naître un acteur puissant sur le segment de la livraison ultra rapide. C'est très très intéressant. Donc en effet, ça veut dire qu'une start-up qui fait partie du Next 40, on va l'appeler un peu comme ça, ce groupe de sociétés valorisé à un certain prix, à une certaine somme, ben voilà, ne sera bientôt plus française. Donc évidemment, voilà, on est un petit peu peut-être un peu déçu, etc. Mais ça peut être aussi une vraie opportunité d'expansion aussi pour Frishti. Et c'est ce qu'ils disent a priori. De leur côté, Frishti, il est avec Gorilla, nous avons trouvé le partenaire idéal pour franchir la prochaine étape de notre expansion mondiale. Donc ça, c'est justement un des cofondateurs, donc la cofondatrice Julia Bijawi qui s'est exprimée dans ce sens, et elle ajoute justement, je ne pouvais pas imaginer une meilleure adéquation et je suis enthousiaste pour notre chemin à venir en tant qu'entreprise commune. Donc là, on a encore très très peu d'informations sur les détails, puisqu'il n'y a encore rien de validé. Ils sont en négociation exclusive, donc ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé un accord final complètement. Donc on n'a pas encore vraiment confirmation de voir si la marque Frishti en elle-même perdurera vraiment vraiment. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que en termes de connaissance de marque sur le territoire français, évidemment, Frishti a un avantage par rapport à Gorilla. Il y a eu un sondage qui a été réalisé justement en décembre dernier par YouGov qui plaçait Frishti justement en tête des marques de quick commerce, donc de commerce avec livraison ultra rapide ici, et comme marque la plus connue. Donc Frishti était vraiment en première place ici. Et puis après, on avait 13% des consommateurs qui disaient connaître donc Frishti. On avait 8% des consommateurs qui disaient connaître l'allemand Gorilla. Alors moi, je vous avoue que j'ai vu quelques articles tech, mais je ne connaissais pas du tout la marque. Je ne sais même pas où sont ces services. Enfin, je sais pas s'il faut télécharger une app ou quoi que ce soit. Et donc, on avait aussi les autres services, hein, parce qu'il n'y a pas que ça comme service de quick commerce. On a évidemment Cajoo, Flink, Getir, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Getir, Getire, je ne sais pas, qui eux ne dépassent pas les 5%. Voilà. Donc, c'est vrai qu'entre 13% et 8%, on va associer peut-être des marques. Donc là, ce n'est pas des parts de marché, mais c'est la renommée de marque. Le fait que Frishti soit quand même bien plus connu en France, c'est aussi une opportunité pour Gorilla. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer, par exemple, pour simplifier, enfin simplifier, je ne sais pas si ça simplifie, mais une possibilité, ce serait évidemment que Gorilla et Frishti fusionnent, que la marque en France prenne le nom de Frishti et la marque en Allemagne garde le nom de Gorilla. Après, quel va être le positionnement international à voir. C'est toujours un petit peu compliqué quand même d'avoir des marques qui n'ont pas les mêmes noms dans les différents pays. Ça peut exister, hein, il y a des stratégies comme ça, mais à voir justement quelle va être leur application. On n'en est vraiment qu'au début encore des négociations ici. Donc comme je vous le disais, ça va être vraiment un acteur du quick commerce, de la livraison ultra rapide qui va venir ici, qui va être créé. On a donc un acteur puissant dans la livraison ultra rapide ou quick commerce, en pleine expansion depuis un an en France et notamment à Paris. Ce qui est intéressant avec Frishti, c'est qu'il y a vraiment une efficacité opérationnelle, notamment à Paris, hein. Vraiment, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent en tout cas dans le phénomène, dans l'écosystème des startups ici connaissent. Et du coup, en effet, comme je vous le disais, Frishti, son business model, c'était, ils se sont lancés comme cuisine avec livraison ultra rapide. Donc, vous avez des plats qui sont cuisinés dans les cuisines de Frishti et qui sont livrés très très rapidement dans la sphère d'Île-de-France, enfin plus précisément Paris. Maintenant, ils se sont peut-être un petit peu plus étendus en Île-de-France. Et maintenant, ils se sont étendus non seulement aux plats cuisinés dans leur cuisine, mais également aux courses. Donc, ils vont avoir des partenaires avec peut-être Monoprix ou carrément des charcutiers, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, ça fonctionne plutôt pas mal. J'entends beaucoup mes collègues qui, voilà, parce que nous, on n'a pas des tickets restaurants, mais on a un petit budget frichti chaque midi, en fait, c'est notre cantine finalement. Et certains vont l'utiliser. Au lieu de commander des plats tout prêts à réchauffer, ils vont acheter de quoi cuisiner pour cuisiner chaque midi. Donc c'est aussi assez intéressant. Voilà, donc certes, Frishti n'a pas eu une vie toute fluide, on va le dire ça comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez notamment de la manière dont ils avaient été épinglés, notamment pour la gestion de livreurs sans papier en 2020. Voilà, donc ils ont essayé de montrer patte blanche depuis, mais ils avaient été pas mal pointés du doigt à l'époque. Bref, ils ont toujours essayé quand même de faire évoluer leur service en essayant de trouver justement des relais de croissance, et notamment à travers donc la fameuse place de marché des produits alimentaires. C'est vraiment ce nouveau secteur qui se développe pas mal chez Frishti. Et voilà encore un fleuron français repris par une entreprise étrangère. Ça peut être aussi un succès, voilà. Mais oui. Après, c'est intéressant parce que ce qu'on voit aussi dans l'article ici de Mad Inès, c'est qu'il mentionne aussi qu'il y avait quand même le service Coll qui vient de fermer ses portes, faute d'investisseurs. Donc l'avenir aussi, c'est aussi une manière de sécuriser, développer et sécuriser l'avenir. Voilà, on va quand même se le dire, le marché financier actuellement et pas en très bonne forme. Voilà, il va falloir quand même, je pense, se préparer à une période pas très très sympa d'un point de vue environnement business dans les mois, années à venir. Et donc, du coup, pour ces boîtes qui n'étaient pas encore forcément rentables, bah, la question se pose de comment on peut rester viable, soit en accélérant la croissance de manière très très forte, soit potentiellement en développant le business sur un autre axe, etc. Donc là, ben voilà, Frishti a fait le choix en tout cas de rentrer en négociation exclusive avec Gorilla. On va voir à quoi ça va mener. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est du côté de Gorilla, clairement, ils se sont imposés face à ses concurrents, notamment en nouant des partenariats avec des distributeurs traditionnels. Notamment, on avait vu le groupe Casino qui avait investi justement dans la startup Gorilla. Donc, pour rappel, hein, en septembre dernier, Gorilla avait fait une levée de 950 millions de dollars. Pas mal, ça représente 809 millions d'euros quand même. Voilà, donc maintenant, c'est clair qu'en France, on va un peu tourner notre regard du côté de Cajou, qui a fait une levée de fonds en septembre de 40 millions d'euros, notamment auprès de Carrefour. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le paysage un peu de la compétition sur ce secteur-là. Et que dire de l'environnement diplomatique aussi? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà en tout cas pour Frishti. Quand on aura plus d'informations évidemment sur les négociations et la nature peut-être du deal exact, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui ils sont uniquement en négociation exclusive, on vous le communiquera, on pourra reparler évidemment de la news. Voilà en tout cas pour Frishti. Voilà, moi je trouve ça quand même intéressant à suivre. J'aurais eu du mal, honnêtement, à voir comment Frishti aurait pu concurrencer, par exemple, Amazon Prime Now, avec la livraison ultra rapide de courses. Ils sont déjà implémentés en France. À voir pour Amazon Prime Now. Alors, je ne connais pas les détails, je ne sais pas si le service est disponible partout en France, mais en tout cas, ils ont quand même une force de frappe et une logistique avec. Ils ont quand même vachement plus d'expertise sur ce niveau-là, quoi. Donc pour moi, ce n'était pas super, super clair la marge de manœuvre de Frishti de leur côté. Voilà. Je vous propose de continuer et cette fois-ci, on va surfer du côté des NFT et de la blockchain. Donc préparez-vous parce que comme vous le savez, je ne suis pas forcément une experte du domaine, mais ça m'intéresse quand même d'essayer de comprendre, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, c'est du côté de OpenSea qui a fait une levée de fonds dernièrement aussi, donc c'est pas forcément très très positif de voir qu'il se passe ça chez eux. Je pense que ça ne fait pas forcément leur... leur affaire, évidemment, en termes de communication et de sécurité et de fiabilité de la plateforme. Alors, OpenSea, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est une marketplace pour acheter et revendre des NFT. Voilà, donc ça peut être des œuvres ou voilà, des choses à se revendre en NFT. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a eu un bug qui a apparu depuis plusieurs semaines et qui a notamment qui a été référencé ou qui a été mentionné dans un tweet au plus tôt le 1er janvier 2022. Donc voilà, ça fait quand même près de 2 semaines, si ce n'est pas plus, qu'on en entend parler. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il commence à être largement exploité durant ces derniers jours, notamment hier, où on a la société justement d'analyse de blockchain Elliptic qui a mentionné qu'en un laps de temps de 12 heures avant le matin d'hier matin, avant le 24 janvier, la faille, le bug avait été exploité au moins 8 fois pour voler justement des NFT avec une valeur de marché de plus de 1 million de dollars. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, on a eu un exemple notamment de vol ici, de vol ou en tout cas d'achat à prix bien plus bas que le marché. C'est notamment celui de l'artiste Bored Ape Yacht. Donc, c'est les séries Bored Ape Yacht Club. Les noms sont franchement imprononçables, je tiens à le dire. Quand on fait des articles, vous ne nous simplifiez pas la vie. Mais bon, voilà, c'est une des séries les plus connues en termes de NFT. Voilà, avec les petits visuels, avec les petits singes, tout simplement. Et il a été acheté à une valeur de 0,77 Ethereum, ce qui représente 1,1760 dollars. Excusez-moi, je vais y arriver. À 1760 dollars et qui avait été revendu à hauteur de 84,2 Ethereum, ce qui représente 192 400 dollars, ce qui n'est pas du tout la même somme. Voilà, donc que soyons clairs. Et donc, du coup, l'attaquant a fait une plus-value ici avec la revente dans le même jour, même à quelques heures près. Hein, je ne connais pas le détail de la timeline, mais ça a été revendu très, très vite. L'attaquant a fait quand même un profit de plus de 190 000 dollars. C'est pas mal quand même, hein, je veux dire... C'est rapide, quoi. C'est pas super, super légal, mais c'est rapide. Voilà. Et donc, du coup, concrètement, comment ça a pu être possible qu'un attaquant puisse acheter un NFT qui a été mis en vente sur une plateforme à un prix largement inférieur que le prix visible au public et de pouvoir le revendre comme ça et se faire une plus-value? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça tient en fait au fonctionnement même de la plateforme OpenSea. Donc je vous rappelle, OpenSea, marketplace qui permet de vendre, d'acheter des NFT. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les utilisateurs peuvent vendre des NFT en définissant justement le prix visible à la communauté, ce qu'on appelle le list price, pour que de potentiels acheteurs puissent voir... et acheter et choisir d'acheter, etc. Et en fait, tout ça, c'est régi par ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. Je fais de la traduction un peu mot à mot. Et donc, du coup, si l'acheteur accepte le prix listé, ce prix visible, et ben du coup, le NFT est automatiquement transféré, automatiquement transféré. Et donc, du coup, si un propriétaire veut remettre en listing un NFT avec un prix supérieur, donc changer son prix visible, tout simplement pour l'augmenter, parce que potentiellement, avec le temps, il a pris la valeur, la renommée de l'artiste s'est accrue, tout simplement. Donc, du coup, évidemment, sa valeur sur le marché a augmenté. Et donc, il veut changer le prix de son NFT, ce qui est quelque chose d'assez standard, évidemment, dans toutes les pratiques e-commerce, hein, enfin commerciales même, pas e-commerce mais commerciales, eh ben en fait, la meilleure manière de le faire, et la vraie manière de le faire, c'est d'annuler le listing précédent au prix plus bas et d'en recréer un autre qui va avoir le nouveau prix. Le problème ici, c'est qu'en fait, l'action d'annuler le précédent listing au prix inférieur coûte de l'argent. Parce qu'en fait, ça demande en fait une opération avec la blockchain. Et donc, en fait, ça coûte de l'argent à OpenSea. Et donc, il répercute ce coût du côté utilisateur. Okay? Donc, comme c'est payant en fait d'annuler un listing, bah, les utilisateurs ont essayé de contourner en fait ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben en fait, ils ont transféré leur NFT dans un autre portefeuille NFT pour le faire ensuite revenir sur leur portefeuille d'origine et pouvoir ajouter un nouveau listing. Qu'est-ce que ça permet de faire? Tout simplement, ça permet de dépublier et de ne plus rendre visible l'ancien listing et de rendre visible uniquement le nouveau listing. Okay? Donc d'un point de vue d'interface utilisateur, visible directement sur OpenSea, sur la marketplace, vous ne voyez que le nouveau listing et pas l'ancien au prix inférieur. Sauf que, même si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que l'ancien listing n'était absolument plus existant ou invalide et que personne n'aurait pu le retrouver. C'est ce qui s'est passé ici, en fait. C'est-à-dire que ces listings, même s'ils n'étaient pas forcément visibles facilement sur la plateforme, ils étaient encore actifs. Et il y a des petits malins, en fait, qui ont réussi à trouver finalement ça. Alors ils ont utilisé des API, l'API d'OpenSea, voilà, des outils, voilà, je ne vais pas rentrer dans la connaissance technique ici parce que ça n'a pas grand intérêt sur l'article en lui-même, mais en tout cas ils ont réussi à retrouver, remettre la main sur ces anciens listings avec un prix inférieur pour pouvoir les acheter à ce prix-là. Et comme en fait ce listing était encore valide, ils ont pu finaliser la transaction. Donc du coup, là c'est intéressant parce qu'en fait on peut se poser la question sur où est la responsabilité finalement. On est en fait sur la problématique aussi d'une plateforme qui centralise, qui est une marketplace et qui va centraliser les transactions et les NFT ici et qui est donc qui a une certaine responsabilité vis-à-vis des utilisateurs qui souhaitent mettre en vente leur NFT. Et on a aussi une technologie qui décentralise. Et finalement, ça veut dire que quand c'est décentralisé, la responsabilité est du côté des personnes qui possèdent les NFT. Donc c'est là, encore une fois, où, voilà, entre centralisation et décentralisation, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et donc il y a OpenSea qui dit, bah non, c'est pas un bug, c'est pas une faille ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est comme ça que fonctionne la plateforme et que certaines personnes ne l'ont pas utilisée de manière approprié parce qu'ils n'ont jamais voulu payer les frais d'annulation de listing, parce que ça peut représenter quelques dollars, mais ça peut également représenter des dizaines ou même des centaines de dollars pour annuler un listing. Donc bon, voilà, disons-le, ça fait un peu chier quand même de payer des centaines de dollars juste pour annuler le prix d'un produit, quoi, et pouvoir avoir un seul prix unique plus cher. Voilà, donc voilà, je comprends. Mais d'un autre côté, bah c'est comme ça que la plateforme était censée opérer aussi. Et c'est comme ça aussi que la blockchain fonctionne. C'est-à-dire, bah voilà, OpenSea n'a pas forcément le contrôle sur les NFT, c'est décentralisé auprès des possesseurs avec leur portefeuille. L'autre problème ici, qui est plus du côté d'OpenSea, c'est qu'en fait, d'un point de vue d'expérience utilisateur, de ce que j'ai compris, et encore une fois, je ne suis pas une experte d'OpenSea ou des NFT ou de la blockchain, c'est qu'en fait, d'un point de vue utilisateur, c'était pas super évident de voir en fait qu'il y avait des précédents listings à des prix inférieurs. Voilà, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait pas, voilà, quand par exemple vous publiez un listing plus cher, il y aurait eu potentiellement la possibilité d'alerter les utilisateurs en disant attention, vous créez un nouveau listing plus cher, mais l'ancien listing moins cher est quand même encore en cours. Voilà. Donc ça, il y aurait eu des manières d'alerter. Donc là, a priori, OpenSea est en train justement de se dire, ok, bon, certes, c'est pas un bug, mais on va quand même rembourser ou dédommager les personnes qui ont été victimes de ce genre de vente de NFT à des prix inférieurs au marché. Et puis, on va mettre en avant plein de nouvelles fonctionnalités pour apporter plus de clarification justement sur tous les listings mis en place sur vos NFT, pour qu'en un clic, vous puissiez les annuler, etc. Donc on sent que d'un point de vue expérience utilisateur, évidemment, on n'y était pas encore, quoi. Donc voilà, on est vraiment sur aussi un secteur qui est en train de trouver ses marques. On est vraiment au tout début finalement de ce genre de marketplace de NFT. Est-ce que ça va perdurer? Je ne suis pas capable de vous le dire. Mais en tout cas, je ne suis pas forcément étonnée qu'il y ait des pots cassés, évidemment. C'est le genre de choses où il y a potentiellement beaucoup d'argent à se faire, mais il y a également pas mal de choses qui ne sont pas encore très peaufinées en termes d'expérience, de responsabilité, de faciliter un petit peu la vente et la protection de ces biens sur la marketplace. On peut annuler les NFT. Tu peux annuler des listings de NFT. Donc en gros, tu mets tes NFT en vente à un certain prix. Tu peux annuler ça pour pouvoir créer un nouveau listing avec un prix supérieur. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que les prix inférieurs n'avaient jamais été annulés. Voilà. Donc moi, j'ai mon avis personnel sur les NFT, mais c'est très très personnel. Maintenant, voilà, c'est intéressant aussi. Une plateforme qui avait des règles très très claires sur l'utilisation et l'usage. Certains voulaient le contourner ou n'ont peut-être pas compris l'utilisation. Je pense qu'il y a potentiellement aussi les deux en même temps. Et du coup, bah, se sont fait arnaquer. Voilà, pour le dire, hein. Donc voilà. Donc. Voilà en tout cas pour OpenSea et qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme hier. C'est nouveau, donc carrément perfectible et la sécurité dans le numérique reste un job permanent, même des années après le lancement. C'est exactement, Swen. Le problème de la sécurité dans le numérique, c'est qu'en fait, c'est jamais fixe. On ne peut jamais atteindre une certitude à 100% comme quoi la sécurité est infaillible. C'est juste une question de temps. Et de coûts pour les attaquants en fait. C'est est-ce que c'est rentable pour eux de passer du temps à attaquer par rapport au niveau de sécurité qui est mis pour récupérer et voler le bien? Voilà, donc si en fait vous avez mis tellement de sécurité qu'en fait ça va leur prendre trop de temps de leur côté, du coup ça vaut pas le coup d'attaquer. Donc c'est un peu la logique de la sécurité, en tout cas sur le numérique. Soit elle nous dit même dans tous les secteurs, le 100% n'existe pas. Le problème, c'est pas les NFT, mais le comportement d'escroc avec. Je suis pas tout à fait d'accord. Je sais pas si qui est derrière Naotech QG ici, c'est Jérôme ou Guillaume. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une notion aussi sur l'aspect de décentralisation et de centralisation. Le grand principe de la blockchain, c'est justement la décentralisation. Mais qui dit décentralisation dit aussi que bah il faut être doublement vigilant, en fait, vous êtes d'autant plus responsable de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous reposer sur une plateforme comme OpenSea, ou en tout cas les limites de jusqu'où vous pouvez vous reposer sur la plateforme, voilà, ont des limites un peu différentes que par exemple Amazon peut-être, qui serait responsable justement de la sécurité des transactions sur sa plateforme. Là, c'est un peu plus compliqué pour OpenSea, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas annuler un listing sans avoir l'opération faite en blockchain déclenchée par l'utilisateur. Voilà. Donc c'est un petit peu plus subtil que ça. Voilà en tout cas pour OpenSea. Je vous propose de continuer avec justement la Digital Service Act. Et oui, après le RGPD, qui était le premier épisode justement dans la réglementation par le Parlement européen concernant les plateformes du numérique et la protection des Européens face au numérique, et ben maintenant on a le Digital Service Act, avec son petit nom français, la législation sur les services numériques, qui serait adoptée, qui a été adoptée le 20 janvier. Et qui pourrait rentrer en vigueur courant 2023. Donc qu'est-ce que c'est ça? Eh ben tout simplement, c'est donc une législation qui permettrait de doter les pays membres de l'Union européenne d'un nouvel arsenal juridique hein, pour pouvoir faire face aux grandes plateformes du numérique qu'on surnomme souvent les GAFAM, comme vous le savez, même si les initiales, on pourrait se dire, auraient dû changer d'ici là. Voilà. Et donc, plus d'un an après la première proposition du Digital Service Act, elle vient d'être adoptée justement à une majorité absolue. Voilà. Donc, elle devrait entrer en vigueur, comme je vous disais, en 2023. Qu'est-ce qu'elle englobe? Elle englobe énormément de changements visant à rendre les géants de la tech plus responsables de leurs actes. Donc par quoi ça passe? Ça passe notamment, donc on va pas passer en revue évidemment tous les points du Digital Service Act parce que quand même ça englobe beaucoup 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 de choses, mais c'est intéressant de pointer du doigt quelques petits éléments. Donc on a notamment dans le collimateur du Service Digital Act la publicité ciblée hein, qui est un peu le grand méchant Ici, qui est vraiment dans le collimateur de l'Europe en ce moment. Donc, une fois que le Digital Service Act sera en application, la publicité ciblée visant les mineurs sera interdite. Oui. Voilà, ça paraît évident, mais oui, voilà, je peux que soutenir cette pratique-là. Voilà, on est suffisamment entouré de publicité et voilà, et pour les mineurs, ça me semblait hallucinant. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on avait notamment Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui le présentait pour simplifier, qui disait tout ce qui est interdit dans la vie réelle le sera désormais sur Internet. Et finalement, bon, alors c'est une simplification extrême évidemment ici, mais c'est assez rassurant finalement de se dire que, ok, les principes qu'on applique dans la vie réelle seront aussi valides finalement dans le numérique, quoi. Donc voilà, donc la publicité ciblée visant les mineurs sera interdite. Elle ne pourra plus s'attaquer notamment à des données dites sensibles concernant des personnes majeures également. Donc par exemple, on a les géants comme Facebook, Google et Amazon qui n'auront plus le droit d'utiliser votre orientation sexuelle ou votre religion pour vous recommander des éléments, ou enfin en tout cas vous cibler avec de la pub. Donc là aussi, c'est bien. C'est voilà, on va dans la bonne direction ici de réduire un petit peu. Il y a certains éléments qui sont à préserver. Voilà, après la question c'est jusqu'où on va pour préserver finalement, et est-ce qu'on doit s'arrêter à la religion ou orientation sexuelle, ou est-ce qu'on doit continuer avec potentiellement le sexe et ne plus cibler les publicités en fonction du sexe, etc. Voilà, l'exemple basique moi que je donne en termes de publicité ciblée, c'est que pour une femme, quand vous êtes dans la vingtaine, vous n'avez que des pubs de tampons, de tests de grossesse ou de couches. C'est insupportable. C'est insupportable, quoi. Bon, c'est bon, maintenant, voilà, à 34 ans, je suis un peu périmée, on va le dire comme ça. Hein. C'est comme ça que la société a tendance à catégoriser les femmes. Donc, je vois beaucoup moins de pubs comme ça. Donc, ça me fait un peu des vacances. Mais c'est quand même assez violent. Le ciblage publicitaire peut être assez violent. Et la pression sociale, ça ne fait que renforcer la pression sociale que l'on attend des femmes. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Encore une fois, voilà, c'est un exemple très personnel ici que je vous partage, qui est assez commun chez les femmes. Évidemment, on passe un peu toutes par là, mais évidemment, il y a d'autres exemples à voir. Donc ensuite, on a en autre point, autre que la publicité ciblée, on a notamment les dark patterns qui seront interdits. Alors c'est intéressant parce qu'on avait déjà des choses côté RGPD et notamment le consentement avec les cookies, qui essayait de viser à interdire les dark patterns. Donc là, il semble que c'était peut-être pas suffisant, ou que c'est peut-être une généralisation finalement de l'interdiction des dark patterns, pas uniquement au consentement des cookies, mais à plusieurs choses. Donc les dark patterns, c'est notamment des messages qui vous demandent votre consentement de manière abusive, en interrompant ce que vous faites, en donnant plus d'importance à l'option acceptée qu'à l'option refusée, etc., etc. Donc ce genre de choses. Vous me faites rire dans la chatroom. Bref. Bref. On continue. Donc après les dark patterns, on a aussi les plateformes qui auront l'obligation de permettre aux utilisateurs de se désinscrire du tracking. Alors excusez-moi, je crois que j'ai la caméra qui bougeait un peu, mais j'ai un chat qui joue derrière mon bureau. Et donc du coup, ah oui, ok, il y a une mouche au plafond, donc il essaye de... Frustration. Frustration de chat. Ok. Donc désolé si la caméra bouge ou il y a des éclairages qui bougent. Voilà, j'en profite. Bonjour de la part du saboteur, saboteur Cheddar, ce matin. Hop, qui est très intéressé par ce qui se passe au plafond. Voilà. Allez. On continue. Et donc après, donc l'obligation de permettre de désinscrire du tracking. On aura donc du coup quel est l'impact ici? Imaginez un utilisateur, hein, ou en tout cas un Européen, un utilisateur de Facebook, devrait pouvoir continuer à utiliser le réseau social tout en désactivant manuellement la publicité ciblée. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait avoir de la publicité, mais qu'elle ne serait plus forcément ciblée. Donc ça veut peut-être dire aussi que du coup, comme la publicité ciblée rapporte plus que celle qui n'est pas ciblée, potentiellement Facebook devra aussi avoir plus d'emplacements publicitaires pour ceux qui désactivent la publicité ciblée. Donc même d'un point de vue produit, c'est compliqué hein, à gérer, d'avoir du coup une expérience pour ceux qui acceptent la publicité ciblée, une autre expérience pour ceux qui n'acceptent pas la publicité ciblée. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aura potentiellement pour les plateformes qui promeut délibérément du contenu blessant, un utilisateur qui se sent attaqué pourra réclamer une compensation. Donc c'est un moyen de faire pression tout simplement sur la modération hein, pour les différentes plateformes de réseaux sociaux dont on a largement parlé ces dernières années. Donc la modération sera désormais obligatoire dans chaque pays. Et enfin, on aura les plateformes qui auront l'obligation d'être transparentes sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Donc là, évidemment, on vise encore une fois ces plateformes. Comme Facebook, qui devra expliquer pourquoi il cible tel utilisateur. Voilà. Alors, je lis un petit peu la chatroom. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me fait coucou? Mata, pourquoi tu me fais Marion chatroom? Ah, c'est un coucou, d'accord. Marion, hello chatroom. Très bien. Hello, Mata. Donc voilà en tout cas pour ce qui englobe un petit peu ce Digital Service Act. Voilà, donc en gros, c'est pour simplifier, c'est l'Europe veut la fin du Far West numérique et veut forcer un petit peu ces grandes sociétés du numérique à être responsables de leurs actes. Donc à voir. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est très bien, c'est bien de faire des législations, etc. Mais comment on va s'assurer que c'est respecté? Alors là, on va avoir certaines techniques qui ressemblent un petit peu comme le RGPD, très probablement. On va avoir un certain laps de temps pour laisser le temps à ces acteurs du numérique de s'adapter avec la nouvelle législation. C'est ce qui s'était passé avec le RGPD où il y avait un principe de bonne foi ici et ils accompagnaient les sociétés pour la transition. Maintenant, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. En tout cas, en termes de pression, le premier moyen de pression sera un rappel à l'ordre avec une amende. L'amende ici, ça c'est intéressant, elle sera jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc là, on n'est plus sur du local ici. On n'est plus vraiment sur, ce sera un chiffre d'affaires sur ce que vous faites dans le chiffre d'affaires en France. Non, non, non. Ce sera le chiffre d'affaires mondial. Donc là, je serais assez curieuse. Moi, je me pose une question un peu peut-être innocente ou candide, c'est est-ce qu'on a le droit finalement de définir une amende qui touche le chiffre d'affaires au niveau international? Je sais pas. C'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que là, ça rigole plus, clairement. Voilà, donc on a ça. Et le second moyen de pression serait carrément un bannissement du marché européen pendant plusieurs jours, semaines ou mois en cas de multiplication des infractions. Donc là, on est vraiment sur l'escalation ici des sanctions. Google et Facebook, bonne foi, sont des mots qui ne m'ont pas l'air d'aller très bien ensemble. Fabrice May, c'est plutôt le RGPD en fait, ou la Commission européenne. Le principe, c'est pas de taper sur les doigts et de sanctionner à tout bout de champ. C'est aussi d'accompagner finalement les différentes sociétés dans la transition. Et tout le monde n'a pas aussi les ressources d'un Google et Facebook. Imaginez des sociétés à plus petite échelle. Si du jour au lendemain, tu changes complètement le cœur de leur business, en fait, elles peuvent juste s'effondrer. Et donc là, ça va un peu à l'encontre du principe aussi de compétition et ça va à l'encontre de l'intérêt du consommateur aussi. Voilà, donc le... Oh, punaise! Ils n'ont pas le droit d'aller dans la plante. Excusez-moi, là, ce matin, c'est un petit peu compliqué, là. J'ai mis la plante derrière pour faire garde du corps. Voilà, j'essaie de la faire tenir jusqu'au printemps pour qu'elle puisse avoir l'opportunité de tenter de refaire des feuilles qui m'ont été pratiquement toutes été cassées ou déchirées par mes saboteurs sur quatre pattes. Voilà, donc je suis en mode garde du corps de la plante. Ça paraît ridicule, mais j'y tiens. C'est la garderie là, ouais, un petit peu, ouais. J'en ai un qui joue avec sa balle à grelot sous mon bureau, l'autre qui saute dans la plante. C'est un petit peu rock'n'roll ce matin. C'est Mario contre les chats. Un peu de concentration, j'essaye. Voilà en tout cas pour le Digital Service Act. On verra un petit peu lors de la mise en place progressive comment ça va se passer. Je vous propose de continuer et on va passer un petit peu de temps à parler de Peloton. Peloton, donc qu'est-ce que c'est Peloton? On en a parlé quand même plusieurs fois. C'est cette société qui permet de commercialiser des vélos d'appartement, des tapis de course d'appartement, avec des programmes, toute une série de cours et de programmes à suivre pour s'entraîner depuis chez soi. Cette société avait évidemment une valorisation assez importante lors du confinement, puisque du coup tout le monde s'était mis à essayer de pratiquer et faire de l'exercice depuis chez soi, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, justement, à l'époque. Mais qui fait face aujourd'hui évidemment au retour des pratiques sportives à l'extérieur ou en salle et qui se prend un petit peu le retour en pleine face, hein, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est intéressant, là j'ai un article de Inc.com d'une personne justement qui s'intéressait, qui souhaitait acheter un vélo d'appartement et qui regardait, son premier réflexe était Peloton. Et qui finalement a réalisé que elle avait perdu confiance dans la société Peloton. J'ai trouvé l'article très très intéressant, je vous encourage à le lire, il est disponible dans notre Flipboard Naotech. Alors qu'est-ce qui se passe plus précisément? À partir du janvier, du 31 janvier prochain, Peloton coûtera $250 de plus pour couvrir les frais de livraison et d'installation. Je vous rappelle que déjà le vélo n'est pas donné, hein. Pour vous donner une idée, on a donc un prix d'achat entre $1 495 jusqu'à $2 495. Voilà, donc en gros de 1 500 à $2 500 en termes de prix de vélo d'appartement. Va falloir avoir envie de pédaler quand même, hein. Voilà, donc c'est déjà pas donné. Ce qui est intéressant ici, c'est que normalement ce genre de frais est inclus dans le prix du vélo. Quand on regarde la compétition, etc., c'est quand même ce qui est fait. Mais là, voilà, on peut accuser l'inflation ou ce genre de choses. Bref, il y a quand même des pratiques un petit peu étonnantes qui sont mises en place. Et donc, du coup, comme le prix augmente de $250, ils ont soi-disant une offre promotionnelle qui permet aux acheteurs d'avoir une livraison gratuite, une installation gratuite jusqu'au 30 janvier. Ce qui, en fait, avant faisait déjà partie du vélo. Donc en fait, t'essayes de m'arnaquer ou quoi là? Oui, un peu quand même, hein. Ça donne quand même une impression d'arnaque, hein. Très très forte, hein, quand même. On parle de compétition, à savoir qu'un vélo de route. Non, non, là on parle pas de compétition, hein. On parle d'un vélo à la maison, hein. On n'est pas sur un vélo de compétition, hein. C'est pas le même sujet, hein. Voilà, donc ça c'est intéressant. En plus, ce qui est intéressant pour un potentiel acheteur, c'est qu'on sait que Peloton a annoncé qu'ils arrêtaient toute production de vélos et de tapis de course, justement parce qu'il n'y avait plus de demande, voilà, et qu'ils avaient tellement produit en temps de pandémie que finalement ils se retrouvent avec sur les bras une tonne de stock qu'ils n'arrivent pas à écouler, ce qui est un vrai problème, hein, pour une société qui vend des biens physiques, en fait, il y a toujours un juste équilibre à trouver entre la production et la demande. Sinon, en fait, tu payes des prix de stockage qui sont juste inintéressants pour la marque. Donc ça, c'est vraiment un vrai danger, hein, d'avoir justement un stock qui dort. C'est pas bon du tout. Autant c'est pas bon de ne pas être capable de répondre à la demande, autant c'est vraiment pas bon d'avoir un stock dormant aussi. Et donc du coup, ce qui se passe, donc voilà, donc on a pratique marketing un petit peu trompeuse ici Je dis un petit peu, mais moi voilà, je trouve ça particulièrement trompeur. On a notamment une marque qui a annoncé qu'ils arrêtaient la production de leurs produits parce qu'il y a peu de demandes. Donc ça incite pas forcément à avoir de la sécurité sur l'avenir de la marque ici. On peut se poser des questions. Et puis aussi, on a quand même une question de qu'est-ce que vous souhaitez faire lorsque vous faites du vélo d'appartement? Qu'est-ce que vous souhaitez regarder? Généralement, le premier réflexe, c'est on va se regarder un programme du Netflix, du YouTube, du Twitch, etc. Bref, on va poser un petit peu son cerveau pour se détendre tout en décomplexant parce qu'on fait une pratique sportive. Donc c'est aussi un moment de détente et de... Voilà, on va faire travailler le physique et reposer un petit peu le mental. Ce qui est un bon changement d'équilibre par rapport à potentiellement ce que vous faites si vous travaillez par exemple au bureau toute la journée. Bah, vous bougez un peu et reposez le cerveau, ça permet d'équilibrer aussi. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, il n'est pas possible avec Peloton de pouvoir utiliser Netflix, YouTube, etc. Ce qui paraît assez aberrant en fait. Surtout à ce prix-là. On a envie de dire, bah, en fait, pour moins cher, je peux avoir un vélo qui permet de faire ça. Donc en fait, si on répond pas aux besoins minimum finalement des utilisateurs, on perd les utilisateurs. C'est quand même la base ici. Et donc en fait, c'est ce que se pose comme question la potentielle acheteuse, c'est qu'en fait, certes Peloton a construit une marque super reconnue avec des vélos et des tapis de course de grande qualité, etc. Bref, on n'entend parler que de cette marque, donc logiquement, elle s'y est intéressée, mais en fait, elle a réalisé que ça ne répondait pas du tout à son besoin. Et ça ne répondait pas du tout aux besoins de la majorité finalement des utilisateurs. Voilà. Donc c'est vrai que pour résumer, elle préfère, comme 77% des utilisateurs et des propriétaires de vélos d'appartement, de regarder la télé ou de lire un livre en utilisant mon vélo. Donc même si elle apprécie d'avoir la possibilité d'avoir des classes qui va l'encourager à s'exercer en groupe, etc., et à suivre un entraînement, après une longue journée de travail, elle n'a pas envie de se faire hurler dessus pour pédaler plus vite, quoi. Elle a juste envie aussi de se détendre tout en décomplexant de ce moment de détente en pédalant et en s'activant un peu physiquement. Donc voilà. Donc du coup, tout simplement, elle a réalisé que d'une part, le vélo répondait pas à ses besoins, et de deux, ils avaient perdu la confiance d'une utilisatrice ou d'une potentielle acheteuse. Donc ça, c'est assez intéressant, quoi. Donc vraiment, on se pose vraiment la question sur l'avenir de Peloton ici, quoi. Donc d'une part, ils ont échoué à justifier le prix qui est quand même exorbitant pour un quand on regarde le marché des vélos équivalents. Mais en plus, ils ne répondent pas complètement aux besoins des utilisateurs. Et en plus, ils ont des tactiques de marketing qui sont trompeuses. Voilà. Donc du coup, bah voilà, c'est fini. Ils ont perdu en tout cas cette potentielle acheteuse. Donc là, l'article, j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est assez bien construit en termes de raisonnement. J'ai l'impression que c'est elle qui se trompe de produit surtout. Pourquoi, Tiopins? Ça m'intéresse. Ali Moshimoshi nous dit, c'est pas tant de décomplexer en faisant du sport pendant une série que de regarder une série pour oublier le sport que je fais perso. Non, mais c'est valable aussi, hein. C'est valable aussi. En fait, t'allies le plaisir à la douleur. Ou à l'effort. Et c'est pas mal finalement, parce que dans ton esprit, tu dis, certes, bon, ok, je vais me fatiguer, mais en fait, je vais aussi me détendre. Voilà, donc voilà en tout cas pour la news. Et ce qui est intéressant, parce que je voulais finir quand même avec ça en termes d'articles tech avant d'enchaîner sur le streaming, c'est qu'on a notamment, donc je vous avais parlé de Sex and the City qui avait fait mourir un de ses personnages phares en utilisant un vélo Peloton, ce qui n'avait pas forcément fait le beurre de la marque, évidemment, vous pouvez l'imaginer, qui avait fait chuter le prix des actions Peloton. Ils avaient essayé de se rattraper. Après ça, en essayant de faire une campagne publicitaire avec justement l'acteur en question, en le montrant en pleine forme et en utilisant justement un vélo peloton. Mais le problème, c'est que ensuite l'acteur en question avait été accusé de harcèlement sexuel. Donc encore une fois, backlash du côté de peloton qui avait mis en scène un acteur qui était accusé d'agression sexuelle dans l'une de leurs publicités. Donc vraiment le cauchemar de relations presse ici. Vraiment, en termes d'image de marque, on est vraiment dans la spirale infernale ici. Et ça continue, puisque maintenant, ça devient un mème en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a une nouvelle série, Billions. Je pense que certains dans la chatroom connaissent cette série. On a la série Billions qui a surfé sur cet événement, qui a également fait faire l'expérience d'un vélo peloton à l'un de ses personnages qui doit se précipiter à l'hôpital avec un événement cardiaque qui se passe. Et donc du coup, il en plaisante même en disant « je vais pas partir comme Mr. Big ». Donc vraiment, là, on a la référence Sex and the City. Donc désolé, petit spoil pour ceux qui se demandaient quel était l'acteur ou le personnage qui mourait entre guillemets dans la série Sex and the City, parce que c'est un petit spoiler. Mais voilà, donc du coup ça devient un mème puisque ça devient une plaisanterie et une référence pop qui va être réutilisée dans d'autres séries. L'autre aspect, quand même, ils sont allés très loin quand même les créateurs de la série, c'est que l'épisode de Billions dans lequel ils ont fait ça a été tourné avant celui de Sex and the City. Donc en fait, ils ont rajouté ce moment-là juste pour pouvoir surfer sur un événement de pop culture et donner un ressenti plus contemporain finalement à la série. Donc vous voyez, il n'y a vraiment plus de limites ici. Donc vraiment, on est vraiment en train de tirer sur l'ambulance ici pour Peloton qui sont déjà en galère, quoi. Peloton pédale à la choucroute, c'est un peu ça, ouais. Voilà, donc... Évidemment, on a Peloton qui est en train de pleurer de son côté, puisqu'ils ont tweeté qu'ils n'avaient jamais accepté que sa marque ou que sa propriété intellectuelle soit utilisée dans la série Billions, ce qui était différent d'ailleurs pour Sex and the City. Ils avaient accepté, mais ils ne connaissaient pas les termes de l'utilisation. Donc voilà, donc là ils sont un peu en train de pleurer en disant non, non, mais on n'avait pas accepté. Et puis de toute façon, la série Billions rappelle bien que l'exercice cardiovasculaire permet aux personnes de vivre des vies longues et heureuses. Voilà, donc il pédale, c'est vraiment le cas de le dire, il pédale sévère. Donc là, vraiment, vraiment difficile. Puis alors, ils le prennent tellement au pied de la lettre qu'ils. Enfin bref, c'est vraiment vraiment très très compliqué. Donc du coup, bah, en conséquence, alors évidemment il n'y a pas que ça en conséquence, hein, mais la société qui a été valorisée à hauteur de 50 milliards de dollars au pic de sa popularité il y a quelque temps est aujourd'hui valorisée à hauteur de 8 milliards de dollars. Et tout ça lié au ralentissement des commandes, à la mauvaise communication, à des pratiques de marketing critiquées, ce genre de choses quoi. Donc clairement, ça sent le roussi. La dernière chose qu'on sait, c'est qu'il y a des compagnies d'investissement qui sont vraiment en train de pousser Peloton d'abord à séparer de son cofondateur, John Foley, et son CEO, de le pousser vers la sortie, hein. Voilà, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui change à la tête de la société. Puis on a également... la société d'investissement qui encourage tout simplement Peloton à se faire racheter par une société de type Disney, Apple, Sony ou Nike. Voilà, en gros, c'est exit le plus rapidement possible ici avant de continuer à perdre en valeur et de complètement tomber et de s'écrouler. Donc là, intéressant parce que du coup, ça permettrait potentiellement à une société de pouvoir racheter un contenu d'entraînement sportif potentiellement à bas prix, mais finalement... Apple TV ayant déjà produit ce contenu, à voir à quelle profondeur hein, ils ont ce contenu, enfin, quelle est la profondeur de leur catalogue en termes d'exercice sportif. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour Apple TV Plus? Je sais pas. Ou Apple Fitness, parce que c'est pas Apple TV Plus, c'est Apple Fitness. Donc à voir. Ils sont vraiment dans une position assez précaire ici. Donc ouais, donc ça aurait pu être intéressant pour accélérer justement sur l'aspect fitness de ces différentes marques type Disney, Nike et compagnie. Mais est-ce que finalement ils en ont tant besoin que ça? Est-ce que Peloton est si différenciant que ça? Est-ce qu'ils ont envie de s'embêter justement avec tout ce qui est livraison et hardware liées à ces vélos et tapis de course? Pas sûr, pas sûr. Je suis pas hyper convaincue. Perso, je serais peloton, j'attaquerais Apple TV pour publicité mensongère à valeur de leur perte financière. Eh ben, bon courage pour défendre ça. Hein. Bon courage pour défendre ça. Hein. Parce qu'Apple, ils ont une bonne équipe juridique hein, derrière, hein, donc il ne faut pas sous-estimer. Hein. Et puis en fait, le motif d'attaque, il est quand même pas super, super solide. Surtout que Peloton avait accepté la présence. Après, c'est leur problème si, s'ils n'ont pas négocié les termes de la visibilité. Et encore une fois, les séries ne sont pas en train de dire explicitement que c'est parce qu'il y a l'usage de Peloton que les personnages ont eu des crises cardiaques. À aucun moment, mais c'est un raccourci que les consommateurs font. C'est la perception de la marque là qui a impacté. Donc non, c'est pas vraiment tenable. Voilà en tout cas pour Peloton. Je tenais quand même à en parler. Je vous propose de terminer l'émission tranquillement avec la chronologie des médias. Donc on va passer à la tartine. Et voilà, on passe au moment streaming un petit peu de l'émission, un peu plus streaming focus ici pour le mug. Je voulais vous parler tout simplement de la chronologie des médias. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi on en parle encore? Alors il y en a peut-être qui se rappellent peut-être même pas à quoi fait référence finalement la chronologie des médias. Alors la chronologie des médias, c'est spécifiquement français, puisque ça permet d'organiser la diffusion des films après leur exploitation dans les salles de cinéma. Donc on a plusieurs supports, notamment sortis en DVD, Blu-ray, etc. On a ensuite Canal+, on a vidéo à la demande avec d'autres types de services du type Amazon Prime, Disney+, Netflix, et puis après on a évidemment la télévision, etc. Donc tout ça, tous ces supports de diffusion se succèdent au fil des mois, selon des règles particulières comme le niveau de financement de la production ou le nombre d'entrées en salle qui va conditionner finalement cette espèce de calendrier de diffusion. Donc voilà, donc autrement dit, on a des chaînes et des plateformes qui apportent des fonds pour la création de contenu et qui occupent en principe une meilleure place dans cette chronologie des médias en fonction justement de leur contribution à la production de contenu. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il y aurait une nouvelle chronologie des médias qui entre en vigueur cette année et donc elle bouscule fortement le précédent dispositif. On a un accord final qui a dû être signé hier et donc du coup le principe c'est qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Donc le nouveau cadre devrait rentrer en vigueur le 10 février 2022 puisque la précédente chronologie des médias expire le 9 février et donc quelle est la nouvelle chronologie? Donc là, j'ai un petit tableau ici que je peux vous partager peut-être. Ça sera sympa pour vous. Donc on a la fenêtre de diffusion ici où on a vente et location, donc DVD, VOD et Blu-ray, où ça sera 4 mois. Donc la nouvelle chronologie qui est identique à l'ancienne puisque c'était déjà 4 mois. Donc 4 mois, ça veut dire 4 mois après la diffusion en salle, évidemment. Ensuite, la fenêtre pour Canal+, ça passe à 6 mois. Comparativement avant, c'était 8 mois. Donc là, on gagne 2 mois quand même en termes de rapidité de mise à disposition sur la plateforme Canal+. On a également Netflix qui était avant à 36 mois, ce qui était quand même énorme et paraissait aberrant, hein, complètement déconnecté de notre mode de consommation aujourd'hui. Donc 36 mois, et qui avec la nouvelle chronologie va passer à 15 mois. Donc là, on divise, plus que ça, hein, mais on divise par deux la fenêtre d'attente. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a Amazon Prime et Disney+, eux, qui passeraient à 17 mois au lieu aussi de 36 mois. Donc là, on accélère aussi. Et on a les chaînes gratuites, type TF1, France 2, M6 et Arte, qui elles aussi en bénéficient parce que la fenêtre de diffusion qui était avant de 30 mois passerait à 22 mois. Donc là aussi, on a un progrès dont on va pouvoir en bénéficier sur carrément les chaînes gratuites. Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi Netflix a 2 mois de moins en termes de fenêtres à attendre que les plateformes du type Amazon Prime ou Disney Plus. C'est la même chose. Et ben, tout simplement, c'est lié au montant qu'ils contribuent pour la production de contenu où ils ont réussi à grappiller 2 mois. Là, on est vraiment dans du grappillage, hein. Voilà, c'est le même délire pour Canal+, hein, qui est quand même vachement impliqué en termes de production de contenu. Voilà, donc tout simplement, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc la danse, on est vraiment sur une densification ici des fenêtres de diffusion en termes de chronologie des médias. Alors, il y a deux effets ici, ça va accroître la concurrence des différentes plateformes entre Canal+, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc., puisque ça resserre. Et donc, on aura plus potentiellement de programmes récents, de films récents qui vont être disponibles sur les différentes plateformes. On aura une moins grande différence entre le support cinéma, DVD et les plateformes de vidéo à la demande. Et aussi, ce qui va se passer, donc, plus de concurrence évidemment, et puis également potentiellement un effet vertueux sur le comportement du public. Parce que qui dit vous avez accès plus rapidement à des films qui étaient sortis en salle, bah, veut dire aussi décourager ou démotiver les utilisateurs à pirater ces mêmes films. Voilà, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'attendre 30 mois avant de pouvoir voir un film qui est sorti au cinéma. Si on n'est pas forcément fan des sorties au ciné, et ben là, on aura carrément donc moins d'attentes et donc encore moins de raisons légitimes de pirater. Déjà, on n'a pas de raison légitime puisque c'est illégal, évidemment, je le rappelle, mais on sera moins tenté. Voilà. Parce qu'en fait, le coût et la difficulté de pirater, le fait de le coût sur l'utilisateur finalement devient trop grand par rapport à finalement attendre que ça arrive sur une plateforme. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la visibilité sur la nouvelle chronologie des médias. En tout cas, moi j'ai hâte qu'elle soit mise en place. Ça va arriver très très vite puisqu'on a moins d'un mois à attendre avant que ça soit mis en place. Ça concerne, alors attention, je préfère le préciser, hein, ça concerne uniquement les films. Puisque les séries n'ont pas de sortie en salle de cinéma, donc du coup elles ne sont pas soumises à la chronologie des médias. Donc il y a uniquement les films qui sont touchés ici. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des séries en US plus 24, c'est-à-dire en diffusion quelques heures à peine après la diffusion américaine. Donc c'est parce qu'en fait il n'y a pas cette contrainte de chronologie des médias. Voilà, donc pendant un temps, il avait été aussi envisagé de rapprocher davantage la fenêtre de vidéo à la demande et de ne pas attendre de 15 à 17 mois, mais de 12 mois, donc 1 an après à la sortie en salle. Mais c'est là Canal+ qui a réussi à maintenir une cloison suffisamment large entre lui et les plateformes américaines pour justement ne pas trop avoir à subir la concurrence. Donc là, c'est assez malin, hein. On a Canal+ qui quand même arrive pas mal à sortir son épingle du jeu. À voir. Grand gagnant, je sais pas. J'irai pas forcément jusqu'à dire qu'ils sont grands gagnants, mais ils arrivent encore à sortir leur épingle du jeu. J'espère que vous n'entendez pas la boule à grelot. J'ai le chat là qui a. Ah oui, ok, si vous l'entendez. Bon, je vais sortir la boule à grelot. Toutes mes excuses ce matin, c'est un petit peu la foire. C'est la partie de jeu là. Ok, vous l'entendez, mais c'est pas trop désagréable. Mais il y a Ola qui nous dit on entend que ça. Cheddar et Moza fait en fond sonore la nouvelle chronologie des médias. Exactement. C'est une très bonne manière de le voir, frérot. Oh là là, je les entends, c'est affreux. C'est une bonne manière de voir. Voilà, ils font la fête et ils célèbrent la nouvelle chronologie des médias. On va tous se réjouir avec les chats ce matin. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup plus à mentionner ce matin. Combien de temps va durer cette nouvelle chronologie des médias? Bah, a priori, il y aura une clause de révision, a priori prévue pour le mois de janvier 2023, pour voir un petit peu comment ça se passe et un petit peu bah voilà le retour peut-être des différents supports. À savoir, c'est pas forcément super acté. On a Disney Plus qui grogne un petit peu, eux, parce qu'ils n'ont pas l'intention de signer cette nouvelle chronologie des médias, car le service estime être bien trop loin de la sortie en salle. Et après tout, c'est un petit peu cocasse que quand ils produisent leurs propres films, ils soient interdits de les mettre à disposition sur leur propre plateforme, tout simplement parce que ça fait grogner les salles de cinéma. Bref, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc voilà, à voir. C'est vrai qu'ils diffusent quand même de nombreux films à travers leurs filiales, hein, Disney, Pixar, Marvel Studios et Lucasfilm. Donc voilà, ils ont quand même, en termes de licence, et de studio, c'est pas mal. Et donc, en effet, eux, entre guillemets, ils se font chier à produire des films et on les interdit de les mettre à disposition sur leur propre plateforme. C'est quand même assez dingue. Bref, voilà. Un petit peu compliqué aussi le fait de. On veut d'un côté pouvoir préserver le monde du cinéma et de la sortie en salle, et de l'autre, pouvoir répondre aux envies et besoins des consommateurs aussi. Je pense qu'on c'est quelque chose d'assez compliqué en France, et de pouvoir continuer à promouvoir aussi la production de plus petits films qui n'ont pas forcément les moyens d'un Disney aussi. Parce qu'on n'a pas non plus envie d'une uniformisation ou une américanisation des programmes. Donc à voir, c'est vraiment un compromis à trouver. Comme je vous le disais, évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, notamment cette fenêtre de diffusion et ce calendrier de mise à disposition sur les différentes plateformes pourra changer en fonction du nombre de sorties, d'entrées en salle pour les films. Voilà, donc ça veut dire que si un film fait moins de 100 000 entrées après un mois d'exploitation, eh ben, potentiellement, il pourra sortir beaucoup plus tôt sur Canal+. Et OCS, etc. Donc voilà, on a des fenêtres qui vont avoir certaines conditions pour pouvoir avoir la fenêtre plus petite sur ce calendrier de chronologie des médias. Voilà en tout cas pour la visibilité globale. Je veux bien qu'on protège la sortie en salle, mais au-delà de 3 mois, les films ne sont plus au ciné, donc le film n'est plus visible. Oui, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te dis, non, mais le film, c'est bon, je vais juste attendre 3 mois qu'il sorte sur une plateforme de streaming, j'ai encore moins de raisons d'aller au cinéma. En fait, c'est pas juste est-ce qu'il est disponible au cinéma ou pas, c'est en fait le temps d'attente. T'as envie de le voir, t'as un film où il y a toute une campagne marketing qui a été mise en place pour te donner envie de le voir. Et donc après, la question, c'est est-ce que t'as envie d'attendre ou pas? Voilà, c'est pas uniquement est-ce qu'il est disponible au ciné ou pas. Donc voilà. Pour la chronologie des médias. Je vous propose donc continuer avec Apple TV+ et une petite nouvelle sur les parts de marché sur le marché américain. Donc on a notamment une étude de Just Watch qui publie un petit peu les chiffres ici sur les parts de marché. Donc je peux vous l'afficher, hein, tout simple ici. Tout simplement, hop, comme ça, vous avez une bonne visibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le marché américain, Netflix reste quand même le grand gagnant de la part de marché avec 25% du marché du streaming. Donc là, évidemment, ça exclut. Là, c'est vraiment vidéo à la demande, hein, on n'est pas sur du YouTube, Twitch et compagnie. Donc on a 25% de part de marché pour Netflix. On a Prime Video Amazon qui est à 19%, donc en seconde position. On a Disney+ qui a 13% à égalité avec Hulu. Je vous rappelle que Disney+ et Hulu font partie en plus du même groupe, hein. Hulu appartient à Disney+. Ensuite, on a HBO Max qui s'est quand même lancé récemment. De mémoire, il me semble que ça fait un peu plus d'un an qu'ils sont lancés. Ils sont lancés, je crois, juste avant la pandémie, il me semble, ou pendant, je ne sais plus. Il me semble que c'était plutôt décembre 2019 ou janvier 2020. Donc ouais, non, plutôt 2 ans. Donc voilà, donc là ils sont déjà à 12%. On a Apple TV plus qui est à 5%. On a Paramount, donc ça c'était, je vais vous donner le nom tout à l'heure, qui est à 3%. Et ensuite on a tous les autres services qui sont encore à 10%. Donc là on a plein de services différents ici qui sont groupés dans autres, tout simplement. Donc voilà un petit peu le paysage du streaming ici pour ces services en début 2022 en tout cas. Voilà, donc au quatrième trimestre 2021. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on a Apple TV+ qui a eu sa part de marché qui a grandi par 1%, et donc carrément sur l'année 2021, ils ont gagné 2% de part de marché. Ce qui est intéressant ici, c'est que si Netflix aujourd'hui reste en première place, ils ont quand même perdu des abonnés puisqu'ils ont perdu 2% de part de marché. La même chose du côté d'Amazon Prime Video qui sont aussi en perte de vitesse. Donc là, on a des signes intéressants où le marché se contracte un petit peu. On a de la compétition qui est de plus en plus sévère entre les différents acteurs. Certes, Apple TV+ reste encore bas, mais il grignote au fur et à mesure. Voilà, on a Hulu et Disney+, qui est donc appartient tous les deux à Disney, qui ont chacun 13%, donc 26% de part de marché, ce qui est énorme. Disney+, qui est quand même récent, hein, je vous le rappelle, mais qui a des licences colossales du type Marvel et Star Wars. Donc, qui a su se reposer là-dessus, et qui a à la fois un catalogue familial et un bac catalogue très riche avec tous les Disney et également le catalogue Starzplay. Enfin, Stars, je sais plus exactement. Je crois que c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, on avait des films exactement, enfin également qui étaient disponibles. Donc voilà, donc là on a une tendance assez intéressante qui est en train de se passer. Hein. Donc on a vraiment, voilà, la compétition Netflix qui avait pris de vitesse un petit peu le marché, mais qui finalement commence à voir que ça devient de plus en plus compétitif et compliqué de retenir les utilisateurs, à voir ce qui va se passer. Peut-être fin 2022, ça serait intéressant de reprendre le pouls ici des progressions de parts de marché. Après, c'est flou, les parts de marché. Comment est référencé quelqu'un qui prend un abonnement Netflix et Amazon Prime, par exemple? Bah, je pense que c'est sur tous les nombres d'abonnements. En fait, c'est pas forcément. Peut-être. Alors, je ne sais pas. En effet, ça serait intéressant de voir comment c'est comptabilisé. Mais peut-être qu'en termes de, au lieu de compter par utilisateur, tu comptes par abonnement. Voilà. Et sur l'ensemble des abonnements, tu es capable d'avoir des pourcentages sur une plateforme ou l'autre. Et potentiellement, il y a en effet, des abonnements qui sont chez Netflix, Prime et autres qui vont sur le même foyer. Hein. Mais c'est pas grave. Mais de toute façon, tu as le lien, hein, je pense, vers l'étude. Oui, tu as le lien vers Just Watch si tu veux en savoir plus. Mais je pense que c'est comptabilisé à peu près comme ça. C'est le nombre d'abonnements total versus nombre d'abonnements par plateforme. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et donc, il n'y a pas Salto, hein, il n'y a pas Salto dans le schéma, parce que tout simplement, c'est français et là, c'est le marché américain. Tout simplement. Il n'y a pas Canal+ non plus, hein. Il n'y a pas OCS, par exemple. Donc là, c'est vraiment le marché français. Et HBO Max, on ne l'a pas en France. Voilà, on a HBO à travers OCS. Vous suivez encore? Voilà en tout cas pour les progressions de parts de marché. Et du coup, on prend des nouvelles aussi sur la stratégie, puisqu'on vous dit en effet pour Netflix, ça devient plus compliqué encore de retenir ses utilisateurs et ils sentent que la compétition s'accélère et se renforce. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils vont essayer peut-être de renforcer et d'accélérer dans certaines autres zones géographiques, certains autres marchés pour renforcer leur position à l'échelle internationale. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est on a notamment Amazon et Netflix qui vont renforcer leur position en Inde en faisant un deal tout simplement de production de contenu à hauteur de 54 millions de dollars avec le producteur de films Clean Slate Film, qui est très très connu en Inde et qui est justement situé dans le cœur de Bollywood à Mumbai. Et donc, ils sont connus justement pour produire pas mal de films. Ils accélèrent de nouveau la production de films après la pandémie. Donc là, c'est un signe aussi que la production de films en Inde peut de nouveau accélérer après justement avoir été lourdement impactée par la pandémie. Donc là, ils ont prévu notamment sur les prochains mois De sortir 8 films et séries sur ces services de streaming. Donc là, on est non seulement sur les sorties en salle, mais surtout sur les services de streaming en premier. Donc là, c'est intéressant et c'est pour ça que Netflix et Amazon vont payer ce deal-là. Et ils prévoient encore d'autres programmes sur les prochains 18 mois. Voilà. Donc Netflix a confirmé que c'est sur les 8 productions, il y a notamment 3 productions qui vont sortir sur Netflix. On n'a pas de confirmation du côté d'Amazon, mais bon, si on fait le calcul, ce serait 5 disponibles sur la plateforme Amazon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une accélération en Inde du côté sur la consommation sur ces plateformes de vidéo on demand, puisque l'industrie du cinéma a été lourdement impactée, donc notamment l'industrie des salles de cinéma, puisque les gens étaient confinés chez eux, etc., que, il y avait des mesures sanitaires qui étaient mises en place. Et donc du coup, ça a été un nouveau marché de 1,4 milliard de personnes en Inde qui a été mis plus en contact avec ces services de streaming et de vidéo à la demande. Peut-être une pratique qui n'était pas forcément très très répandue auparavant, avec la pandémie et les confinements forcés, etc., finalement, ça a fait découvrir ce nouvel usage, ou cet usage qui n'était pas forcément en grande adoption avant, à 1,4 milliard de personnes. Donc c'est un marché colossal ici pour ces plateformes de vidéo à la demande. Et donc du coup, pouvoir se positionner ici est une vraie opportunité. Donc aujourd'hui, on a quand même notamment Reed Hastings qui s'est exprimé sur une certaine frustration, puisque on avait Reed Hastings donc le mois dernier qui a coupé, enfin Reed Hastings ou Netflix, qui a réduit le prix de l'abonnement en Inde de 60% pour être beaucoup plus agressif en termes de prix, puisque c'est quand même un marché où la sensibilité en termes de prix est supérieure. Et où Netflix a encore besoin de faire ses preuves, c'est ce qu'on vous avait dit, hein. Au lancement de Netflix, le prix était relativement bas, c'était un marché à conquérir, un usage à faire rentrer un petit peu dans les habitudes des consommateurs, et maintenant, ils se permettent d'augmenter les prix, parce qu'en fait, l'usage est là, les habitudes ont été prises, et donc du coup, ils ont prouvé leur valeur, et donc maintenant, ils se permettent d'augmenter le prix, tout simplement. Donc clairement, voilà, on a notamment voilà, une agressivité pardon, de Netflix pour conquérir un peu plus vite le marché de l'Inde. Donc aujourd'hui, on voit nettement que Netflix essaye de récupérer des parts de marché qui sont principalement occupées par Amazon et Walt Disney, qui sont les deux acteurs dominants aujourd'hui en Inde en termes de services à la demande, de vidéos à la demande. Donc ce sera intéressant parce que du coup on voit que la compétition pour la vidéo à la demande s'accélère. Donc on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu notamment en France et on le voit aussi en Inde. Ça veut dire aussi que les budgets vont s'augmenter, enfin vont augmenter. Et donc ça sera intéressant aussi pour les studios de production de pouvoir produire directement avec ces services de vidéo à la demande. C'est ce qui est en train de se passer, hein, tout simplement. Voilà en tout cas pour ce qui se passe en Inde. Après, en Inde, on est loin du milliard pouvant accéder à ce marché. Il y a des centaines de millions de pauvres. Oui, M. Wendigo. Alors, clairement, le niveau de vie et le niveau de pauvreté n'est absolument pas le même en fonction des marchés auxquels on s'intéresse. Mais il y a aussi une notion que l'accès via un smartphone est de plus en plus accessible. L'abonnement à un téléphone ou à un data est de plus en plus accessible. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a la stratégie de réduire le coût de l'abonnement de 60%. Donc là, on est clairement sur s'aligner avec les prix du marché. Alors, je ne suis pas capable de te dire, du coup, qu'est-ce que ça représente exactement en termes de pourcentage de population qui pourrait se permettre d'acheter ce type d'abonnement. Honnêtement, je n'ai pas une connaissance suffisante du marché en Inde pour pouvoir te répondre, mais en tout cas, il doit être suffisamment intéressant quand même pour s'y lancer. Voilà, donc à voir comment ça va se passer. Mais ça reste pertinent, hein. Si c'est en ça dessus, c'est que ça reste pertinent. En Inde, Disney a un partenariat avec Hotstar qui diffuse tous les matchs de cricket, notamment donc stratégie autour du sport en live aussi. Hyper intéressant, merci pour l'info, Rulli Toto. C'est vrai que le cricket en Inde est quand même peut-être pas le sport national, mais très très en vogue. Voilà. Voilà en tout cas pour la dernière actualité. Je vais pas avoir le temps malheureusement de faire le dernier article. Peut-être que mes collègues le feront. Et si c'est pas le cas, je vous propose d'en parler la semaine prochaine. De toute façon, c'est pas forcément très très lié à l'actualité, mais je vous propose d'arrêter là. Avant de terminer l'émission, quand même, je vais vous parler de notre sponsor. Notre sponsor, je vais vous le montrer quand même si vous l'avez vu. Évidemment, en haut de notre petit live, hop, j'en profite pour vous le montrer. Et donc, on remercie ce matin Trade Republic, sponsor de l'émission Le Mug. Alors, qu'est-ce que c'est Trade Republic? Donc, c'est une appli qui permet de placer son argent, faire du trading, et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, ou en tout cas qui veulent débuter hein, et quand même dynamiser leur argent. Donc, alors attention, évidemment, Trade Republic est notre sponsor, mais nous, en tant que Naotech, nous promouvons uniquement la plateforme et ses services. En aucun cas, nous n'allons vous donner des conseils, évidemment, d'investissement. C'est pas notre domaine et c'est pas notre rôle. Trade Republic, l'avantage c'est que c'est simple. Il y a une interface minimaliste, vous pouvez acheter des actions, des groupes d'actions pour investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur, comme par exemple l'écologie. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand vous ne connaissez pas forcément en détail chacune des boîtes, évidemment. Pour s'inscrire, c'est très simple, il suffit d'une pièce d'identité et un RIB. Et l'intérêt aussi avec Trade Republic, c'est que c'est transparent. On vous propose des plans d'investissement programmés, intéressants pour minimiser les risques. Il y a également pas de frais cachés, donc ça, c'est très très important. C'est toujours 1 euro par transaction. Et c'est donc très adapté pour des investissements réguliers d'un certain montant. Trade Republic, c'est également solide puisque c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire. C'est soutenu par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc là, l'avantage, si ça vous intéresse et que vous voulez tester le service, vous pouvez ouvrir votre compte Trade Republic gratuitement dès aujourd'hui et vous recevez une action offerte jusqu'à une valeur de 200 euros. Donc tout ça, c'est grâce au sponsor avec Naotech. Donc pour plus de détails, vous pouvez suivre, avoir plus d'informations dans les descriptions de l'émission ou tout simplement suivre le lien sponsorisé. Merci à Samuel de l'avoir partagé. Voilà, merci à Trade Republic de sponsoriser l'émission. Et là-dessus, je vous propose tout simplement de conclure. Avant de vous quitter, on va voir si on peut faire un petit raid quand même et voir qui est en live ce matin. Alors, j'ai l'interface Twitch qui a changé et pas pour m'arranger, puisque je n'ai... Ah, voilà, ça revient. Voilà, super. Donc, on va faire un petit raid. Lance un raid. Voilà. Et qui est-ce qui est en ligne? Donc, on va rendre visite à Cabri DIY. Tiens, ça va changer. Voilà. Donc, on va rendre visite à Cabri DIY. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain mug en ma compagnie. Mais sinon, vous pouvez retrouver évidemment le mug en compagnie de Jérôme et Guillaume dès demain matin, 8h. Très bonne journée à tous. Bye bye.